Au printemps de 1998, Carol et moi avons pu combiner un voyage d'affaires avec des vacances en famille de quelques jours à Hawaï, avec nos quatre enfants et ma belle-mère qui avait récemment perdu son mari. La veille au soir de notre voyage à Hawaï, nous avons appris que Jonathan, notre fils de 4 ans, avait une double otite et qu'il ne pourrait pas prendre l'avion avant au moins 3 ou 4 jours. Nous avons décidé que Carol resterait à la maison avec Jonathan pendant que je ferais le voyage avec le reste de la famille. Le premier indice que ce n'était pas le voyage que j'avais envisagé est survenu peu après notre arrivée. Nous promenant au clair de lune sur un sentier bordé de palmiers, contemplant l'océan qui s'étendait devant nous, je me suis tourné pour commenter la beauté de l'île. Et à ce moment romantique, au lieu de voir Carol, je me suis retrouvé à regarder dans les yeux ma belle-mère, que, je précise, j'aime énormément. Ce n'était pas ce que j'avais attendu. Carol n'avait pas non plus prévu de passer ses vacances seule à la maison avec notre fils malade. Il y aura des moments dans notre vie où nous nous trouverons sur un chemin imprévu, rencontrant des circonstances beaucoup plus graves que des vacances bouleversées. Comment réagissons-nous quand des événements qui souvent échappent à notre contrôle, modifient la vie que nous avions planifiée ou espérée? Le 6 juin 1944, Hiram Shumway, jeune sous-lieutenant de l'armée des États-Unis, a débarqué à Omaha Beach le jour J. Tout s'est bien passé lors de son arrivée, mais le 27 juillet, alors qu'il participait à l'avancée des Alliés, il a été grièvement blessé par l'explosion d'une mine anti-char. En un instant, sa vie et sa future carrière médicale ont été tragiquement affectées. Après de nombreuses interventions chirurgicales qui l'ont aidé à se rétablir de la plupart de ses graves blessures, frère Shumway n'a jamais retrouvé la vue. Comment allait-il réagir? Après 3 années de réadaptation passées à l'hôpital, il est retourné à Lovell, aux États-Unis. Il savait que son rêve de devenir médecin n'était plus réalisable, mais il était décidé à aller de l'avant, à se marier et à subvenir aux besoins d'une famille. Il a fini par trouver un travail à Baltimore, comme conseiller en réadaptation et spécialiste de l'emploi des non-voyants. Lors de son propre processus de réadaptation, il avait appris que les aveugles sont capables de beaucoup plus de choses qu'il ne l'avait pensé, et pendant ses 8 années à ce poste, il avait permis à davantage d'aveugles de trouver un emploi que tout autre conseiller du pays. À présent, confiant en sa capacité à prendre soin d'une famille, Hiram a demandé à sa bien-aimée de l'épouser en lui disant « Si tu lis le courrier, trie les chaussettes et conduis la voiture, je peux faire le reste. » Ils se sont mariés peu après au temple de Salt Lake City et ils ont eu la bénédiction d'avoir 8 enfants. En 1954, les Shumway se sont retournés au Wyoming où frère Shumway a été pendant 32 ans directeur de l'éducation des sourds et des aveugles de l'État. Au cours de la même période, il a été évêque de la première paroisse de Cheyenne pendant 7 ans et plus tard patriarche du Pieux pendant 17 ans. Après son départ à la retraite, frère et sœur Shumway ont été aussi couple missionnaire d'âge mûr dans la mission sud de Londres. Hiram Shumway est décédé en mars 2011, laissant derrière lui un héritage de foi et de confiance dans le Seigneur, même dans des circonstances difficiles, à une nombreuse postérité d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. La guerre a peut-être modifié la vie d'Hiram Shumway, mais il n'a jamais douté de sa nature divine et de son potentiel éternel. Comme lui, nous sommes des fils et des filles d'Esprit de Dieu et nous avons accepté son plan selon lequel nous pourrions obtenir un corps physique et acquérir l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser, en fin de compte, notre destinée divine en héritant la vie éternelle. Aucun changement, aucune épreuve ni opposition ne peut modifier ce processus éternel. Seuls nos choix le peuvent quand nous exerçons notre libre arbitre. Les changements et les difficultés qui en résultent, que nous rencontrons dans la condition mortelle, affectent chacun de nous de façon unique. Comme vous, j'ai des amis et des membres de ma famille. J'ai vu des amis et des membres de ma famille faire face à des difficultés causées par le décès d'un être cher, un divorce difficile, le fait de n'avoir jamais de possibilité de se marier, une maladie ou blessure grave, et même des catastrophes naturelles comme nous en avons récemment été témoins. La liste n'est pas exhaustive. Bien que chaque changement puisse dépendre de notre situation personnelle, un élément commun influence l'épreuve ou la difficulté qui en résulte. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ permet toujours l'accès à l'espoir et à la paix. L'expiation de Jésus-Christ apporte toujours les mesures correctrices et curatrices à chaque corps blessé, chaque esprit endommagé et chaque cœur brisé. Il sait, d'une façon que personne d'autre ne peut comprendre, ce dont nous avons besoin individuellement, afin d'aller de l'avant au milieu du changement. À la différence de nos amis et de nos êtres chers, le Sauveur ne se contente pas de compatir avec nous, mais il peut aussi nous comprendre parfaitement parce qu'il est passé par là. En plus de payer le prix et d'avoir souffert pour nos péchés, Jésus-Christ a aussi parcouru chaque chemin, affronté chaque difficulté, fait face à chaque souffrance physique, émotionnelle ou spirituelle que nous pouvons rencontrer un jour dans la condition mortelle. Boyd Packer a enseigné « La miséricorde et la grâce de Jésus-Christ ne se limitent pas aux personnes qui commettent des péchés, mais elles étendent la promesse de paix éternelle à toutes les personnes qui acceptent et suivent le Sauveur. Sa miséricorde est le puissant guérisseur, même des innocents blessés. » Dans la condition mortelle où nous sommes, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive. Mais nous avons le contrôle absolu de la façon dont nous réagissons aux changements dans notre vie. Cela n'implique pas que les difficultés et les épreuves que nous rencontrons sont anodines ou faciles à gérer ou à résoudre. Cela n'implique pas que nous ne connaîtrons pas la douleur ou le chagrin. Cela signifie qu'il y a des motifs d'espérer et qu'en raison de l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons aller de l'avant et connaître des jours meilleurs, des jours pleins de joie, de lumière et de bonheur. Dans Mosiah, nous lisons le récit d'Alma, l'ancien prêtre du roi Noé et son peuple qui, avertis par le Seigneur, partirent dans le désert devant les armées du roi Noé. 8 jours plus tard, ils arrivèrent dans un pays très beau et très agréable, où ils dressèrent leurs tentes et commencèrent à cultiver le sol et à construire des bâtiments. Leur situation semblait maintenant prometteuse. Ils avaient accepté l'évangile de Jésus-Christ. Ils avaient été baptisés, faisant ainsi alliance qu'ils serviraient le Seigneur et respecteraient ses commandements. Et ils se multiplièrent et prospérèrent extrêmement dans le pays. Cependant, leur situation allait bientôt changer. Une armée de la Lamanite se trouvait dans les régions frontières du pays. Alma et son peuple furent bientôt réduits en servitude, et leurs afflictions étaient si grandes qu'ils commencèrent à crier à Dieu avec ferveur. De plus, leurs vainqueurs leur interdirent de prier, et quiconque serait découvert à invoquer Dieu serait mis à mort. Alma et son peuple n'avaient rien fait pour mériter cette nouvelle situation. Comment allaient-ils réagir ? Au lieu d'accuser Dieu, ils se tournèrent vers lui et lui déversèrent leur cœur. En réponse à leur foi et à leur prière, le Seigneur leur dit « Prenez courage, j'allégerai les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos. » Peu après, le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité. Et ils se soumirent de bon cœur, avec patience, à toute la volonté du Seigneur. Bien que n'étant pas encore délivrés de l'esclavage, en se tournant vers le Seigneur et non en se détournant de lui, ils reçurent des bénédictions correspondant à leurs besoins et conformes à la sagesse du Seigneur. Dallin Oakes a enseigné « Les bénédictions de guérison se produisent de toutes sortes de façons, chacune adaptée à nos besoins respectifs, tels que les connaît celui qui nous aime le mieux. » Parfois, une guérison traite notre maladie ou allège notre fardeau. Mais parfois, nous sommes guéris en recevant de la force, de la compréhension ou de la patience pour supporter les fardeaux qui nous sont imposés. Finalement, leur foi et leur patience étaient si grandes que le Seigneur délivra Alma et son peuple. Et ils déversèrent leurs actions de grâce à Dieu, car ils étaient dans la servitude. Et personne ne pouvait les délivrer si ce n'était le Seigneur, leur Dieu. L'ironie du sort est que, trop souvent, les personnes qui en ont le plus besoin se détournent de leur seule source parfaite d'aide, notre Sauveur Jésus-Christ. Le récit scripturaire bien connu du serpent d'airain nous enseigne que nous avons un choix à faire face aux difficultés. Après que des serpents brûlants qui volaient eurent mordu de nombreux enfants d'Israël, une figure fut élevée afin que quiconque la regarderait vécût. Et beaucoup regardèrent et vécurent. Mais il y en eut beaucoup qui étaient si endurcis qu'ils ne voulurent pas regarder. C'est pourquoi ils périrent. Comme les Israélites de jadis, il nous est aussi recommandé de regarder vers le Seigneur et de vivre. Car son joug est doux et son fardeau léger, même quand le nôtre est lourd. Alma le jeune a enseigné cette vérité sacrée quand il a dit « Je sais que quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions et sera exalté au dernier jour. » En ces derniers jours, le Seigneur nous a fourni de nombreuses ressources, nos serpents d'airain qui sont toutes destinées à nous aider à regarder vers le Christ et à placer notre confiance en lui. Relever les défis de la vie ne veut pas dire ignorer la réalité, mais considérer ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer et sur quelle fondation nous choisissons de construire. Ces ressources incluent notamment l'étude régulière des Écritures et des enseignements des prophètes actuels, la prière et le jeûne fréquent et sincère, le fait de prendre dignement la Sainte Cène, l'assiduité au temple, les bénédictions de la prêtrise, les conseils judicieux de thérapeutes compétents et même les médicaments prescrits correctement et utilisés tels qu'ils sont autorisés. Quels que soient les changements qui surviennent et quel que soit le chemin imprévu que nous devons emprunter, la façon dont nous y réagissons est un choix. Notre meilleure option consiste toujours à nous tourner vers le Seigneur et à saisir la main qui nous le tend. Richard Scott a enseigné cette vérité éternelle. Le bonheur véritable et durable, accompagné de la force, du courage et de la faculté de surmonter les plus grandes difficultés, s'obtient en centrant sa vie sur Jésus-Christ. Il n'y a pas de garantie de résultat immédiat, mais l'assurance absolue qu'au moment voulu par le Seigneur, des solutions se présenteront, la paix prévaudra et le vide sera comblé. Je vous témoigne de ces vérités. Au nom de Jésus-Christ, Amen.